Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour et bienvenue dans le Réveil culturel, le grand entretien de l'actualité de la pop culture en France, que vous pouvez écouter tous les jours de la semaine, tôt le matin à la radio ou quand vous voulez en passant par l'écoute en ligne ou l'abonnement au podcast disponible entre autres à partir de quelques clics de franceculture.fr. À la coordination Corinne Amar, à la réalisation Vincent Abouchard et ce matin à la prise de son Jérémy Kaufmann qui fait ses premiers pas à la radio. Welcome. Mon invité ce matin est l'artiste conceptuel Zineb Sezira. Le jeu de pommes à Paris lui consacre une exposition rétrospective qui couvre une période de sa vie, 20 ans, les 20 ans de sa vie de 1998 à aujourd'hui, ce qui permet de voir et de suivre le cheminement de l'artiste à travers ses questionnements sur la mémoire, la transmission ou la non-transmission d'une culture d'origine et les cultures qui s'inventent aujourd'hui autrement à l'ère du post-colonial et des crises migratoires. De Londres à Alger, en passant par Paris, dans des formes aussi diverses que la vidéo, les archives, la sculpture et la photographie, la plasticienne entremêle ses récits familiaux avec ses recherches historiques. L'espace d'un instant, c'est l'intitulé de cette exposition, la première d'envergure en France pour l'artiste Zineb Sezira. C'est au Jeu de Pomme, je le rappelle, à Paris jusqu'au 19 janvier 2020.
Le réveil culturel. Mardi, Expo.
Bonjour Zineb Sezira.
Bonjour.
Votre histoire particulière est au centre de vos dispositifs artistiques. Alors commençons donc par parler de vous, de votre histoire géo, si j'ose dire. Française, vous êtes née à Paris, de parents immigrés algériens, et vous quittez la France dès l'âge où l'on peut quitter le foyer familial, c'est-à-dire à l'âge de 22 ans, pour vous installer à Londres. Pourquoi ?
Je pense que j'avais tout simplement envie d'apprendre une autre langue et puis surtout de voir ailleurs, comme on fait souvent à cet âge-là. J'avais envie juste de découvrir une autre culture. Et j'étais beaucoup dans le milieu de la musique, en fait, à Paris. Enfin, pas en tant que musicienne, mais en tant qu'une personne qui fréquentait beaucoup de musiciens. Et évidemment, Londres paraissait la ville idéale pour la musique de ces années 90, ou fin 80, début 90. Donc non, c'était effectivement pour apprendre la langue et pour être dans un autre milieu en fait. Et puis peut-être plus tard, je me suis rendu compte justement en étant en Londres que j'avais peut-être besoin aussi de cette distance par rapport à ma propre identité algérienne et française.
Alors racontez-nous justement comment Londres va servir de lieu où vous pouvez réfléchir sur votre histoire personnelle, sur vos origines, sur la culture de l'exil.
Alors justement à Londres, je ne suis pas algérienne, je suis française. Je passe beaucoup plus discrètement, on va dire, qu'en France. Les gens ne savent pas, ne connaissent pas l'histoire de l'Algérie. Je leur dis que je suis algérienne, ils ne savent même pas où est le pays. Donc ça me donne une certaine ouverture quelque part ou une certaine relation par rapport à mon identité ou ma couleur de peau ou ma manière d'être qui est beaucoup plus acceptée, on va dire, en Angleterre, dans un pays quand même où surtout à Londres, la diaspora ou l'immigration est beaucoup plus ouverte et acceptée, on va dire. Donc je passe comme ça assez facilement de groupe à groupe sans avoir réellement de problème de racisme que j'avais peut-être vécu quand même en France, je dois dire, même en tant qu'enfant et puis plus tard. Donc je passe un peu inaperçu comme ça et ça me donne, je crois, cette envie justement de me rapprocher de mon identité algérienne et française pour le coup. Plutôt que de m'en éloigner. Je m'en éloigne, mais après, je vais y retourner, justement. Et puis, je décide de faire une école d'art, comme ça, un peu sur un coup de tête. Et en fait, de fil en aiguille, je monte d'échelle en échelle. Je me retrouve à faire un master à la fin, dans une école d'art à ses côtés, la Slade School of Art, où je fais justement de la vidéo, beaucoup de vidéos, mais dans ces deux dernières écoles où je suis allée, donc Central Saint Martin et la Slade School of Art, il y avait un très gros élément qui faisait partie des cours d'art, c'était le postcolonial, le féminisme. C'était vraiment deux thèmes poussés parce que nos profs étaient ou d'origine jamaïcaine ou pakistanaise, etc. Il y en avait plusieurs. Et puis aussi, beaucoup de profs étaient des féministes. Ils venaient de cette école de féministes des années 70.
Ça va structurer cette partie-là avec ces études postcoloniales, Zineb Sezira ?
Bah, complètement. C'est avec ces études postcoloniales que je découvre que je suis finalement africaine. que je suis algérienne, non, peut-être pas, mais que je découvre beaucoup de choses autour de l'Algérie, de cette histoire postcoloniale, que je découvre qu'il y a quand même beaucoup d'écrivains, beaucoup de musiciens, des réalisateurs, etc., algériens dont personne parlait en France, comme moi j'étais en France en tout cas.
Et vous décidez de faire ce fameux premier voyage en Algérie, puisque, je le rappelle, Zineb Sidera, vous êtes née en France.
Oui, je suis allée en Algérie pendant mon enfance, pour des vacances avec la famille, ça je l'ai fait comme beaucoup d'autres. Mais effectivement, il y a une période de 88, la dernière fois que je suis allée en Algérie avant le retour, c'était en 88. Donc pendant justement cette période en Algérie où il y a eu les émeutes du 5 octobre 88, j'étais allée juste avant et je n'y retourne pas jusqu'en 2004-2005 hein, parce que on sait tous, il y a la décennie noire qui s'installe. Mes parents sont en Algérie, ils sont retournés eux vivre en Algérie juste avant 88. Donc nous retrouvent à Paris ou à Londres s'ils veulent nous voir, enfin s'ils veulent me voir. Mais en tout cas, moi je ne retourne pas en Algérie pendant plus de 15 ans. Et donc le premier voyage se fait avec une invitation du Centre culturel français à Alger pour une exposition en partenariat avec la galerie ESMA, qui était une galerie algérienne. Et donc je reviens à Alger et là effectivement je tombe complètement amoureuse de cette ville.
Et de son histoire, d'ailleurs.
Et de son histoire, et que, sur lequel j'avais déjà commencé à travailler auparavant, parce que j'avais fait des œuvres avec mon père et ma mère en 2003, sur la guerre d'Algérie, sur l'immigration. Donc j'avais déjà quand même abordé pas mal de ces thèmes-là, je dirais de peut-être 2001 j'en avais fait au moins 3-4 œuvres autour de ces thèmes-là. Mais ce qui change, c'est quand j'arrive en 2004-2005, pour la première fois, j'ai accès directement, et pas qu'au travers de mes parents, directement à cette histoire coloniale au travers de l'architecture, de la mer et des gens, en fait. Donc c'est là où ça diffère un peu de l'histoire orale de mes parents qui, eux, parlaient effectivement de la guerre d'Algérie, mais d'une manière très personnelle, on va dire. Donc là, par contre, je déambule dans les rues, je vois le nom des rues, je vois les cafés, le milk bar, par exemple, etc., etc. Et là, je suis vraiment dedans. Et là, ça m'ouvre sur d'autres projets, beaucoup moins documentaires, beaucoup plus poétiques, hein, dans la réalisation de mes films, en tout cas. Et en même temps, j'entame cette collection de blagues orales que j'entends constamment raconter dans les bars, les cafés, les restaurants, chez des amis, dans des moments un peu festifs comme ça, ces blagues anti-terroristes que je commence tous les soirs à transcrire dès que je quitte le restaurant, je les note en rentrant.
C'est quoi l'approche, Zineb Sidera?
C'est de me comprendre moi. Ouais. C'est-à-dire parce que même si moi j'ai pas vécu la guerre d'Algérie, mes parents l'ont vécu et que moi, ayant été élevée par mes parents qui ont vécu ces guerres d'Algérie, j'ai automatiquement eu quand même des séquelles ou des traces qui ont été laissées.
Que vous questionnez d'ailleurs dans vos installations. Voilà. Une des œuvres qu'on connaît le mieux de vous, Zineb Sidera, c'est bien sûr ces films, ces trois films de 5 minutes projetés sur trois écrans où vous mettez en scène trois conversations, c'est-à-dire entre trois femmes d'une même famille, la mère, la fille et la grand-mère, et qui s'expriment dans des langues différentes. Votre mère s'exprime en arabe, vous lui répondez en français, votre fille, elle, qui naît à Londres, je suppose, parle en anglais, n'arrive pas à comprendre votre grand-mère.
Oui, effectivement, ça c'est une œuvre que j'ai faite en 2002, et ça faisait partie des œuvres qui étaient des œuvres faites avec mes parents, mais souvent en France, puisque je retournais pas en Algérie. Mais effectivement, je me suis rendu compte un jour, en dînant en famille, qu'il y avait trois langues qui circulaient au sein de la même famille, et j'ai voulu faire quelque chose là-dessus.
Oui, vous mettez l'accent sur cette transmission qui n'est pas toujours possible.
Oui, effectivement, le clivage qui peut se faire dans une histoire diasporique, on va dire. Et là, notamment, la relation entre ma mère et fille, où elles ne peuvent pas communiquer verbalement ensemble, mais elles ont d'autres moyens de communiquer. Il y a beaucoup de tendresse, énormément. Donc du coup, ma mère a dû développer un body language qui est beaucoup plus fort avec elle. Et elle le dit tout le temps, elle dit avec ses petits-enfants en Angleterre, elle est beaucoup plus attentionnée que ceux qui vivent en Algérie ou qui vivent en France, parce que justement, elle ne peut pas communiquer avec eux.
Collecter des archives et puis les utiliser, les exposer, les montrer, mais d'une manière artistique, comme si vous vouliez vous éloigner, Zineb Sidera, de l'analyse sociopolitique.
Je suis quelqu'un qui chine depuis toujours, depuis l'âge de 18 ans. Il me semble que j'ai fréquenté des puces, tout ça, depuis cette période-là, et j'ai continué à Londres. Et puis, il me semblait pertinent, quand j'ai décidé de faire un projet sur le Festival panafricain 69, les années 60 étant ma période préférée pour chiner, au niveau vestimentaire ou au niveau de meubles, etc., il m'est paru important de combiner mon amour pour chiner avec, justement, mon intérêt pour l'archive. Donc, je trouvais que c'était un bon moyen de commencer justement cette œuvre. Donc j'ai eu la chance d'avoir un budget en fait du Jeu de Paume et des autres partenaires pour pouvoir chiner des objets ou des disques en relation avec cet événement de 69 en Algérie, mais pas uniquement, aussi les années 60 et toute cette période utopique, cette décennie utopique où on a vu beaucoup de mouvements variés.
Progressistes, voilà. Anticoloniaux, pour l'indépendance des pays africains. Pour la paix,
pourquoi
cette année et cette histoire, c'est-à-dire 1969, et le festival panafricain ont retenu votre attention, Zineb Sidira?
Alors ça fait un petit moment, j'ai vu pour la première fois le film de William Klein en 2009, quand il est sorti en DVD sur Arte, puisqu'il n'était pas accessible auparavant. Ensuite, je l'ai re-regardé il y a un an de ça, quand le Jeu de Paume m'a contacté pour exposer, pour créer une nouvelle œuvre. Et là, je me suis dit que c'était un film qui n'avait pas du tout vieilli, que j'avais vraiment envie de l'exploiter et que surtout, j'étais encore étonnée que très peu de gens le connaissaient ou très peu de gens le montraient en fait. Donc, je me suis intéressée à ce film-là. J'ai eu aussi la chance d'avoir accès à certaines archives en Algérie qui sont extrêmement dur d'accéder, comme la Cinémathèque d'Alger, le CNCA, etc. Donc j'ai eu accès, et en allant justement à la Cinémathèque d'Alger, là j'ai vu dans les archives des centaines de films dont je rêvais de voir ou dont j'avais entendu parler, certains dont...
Et ça raconte quoi? Une utopie?
Bah oui, justement, la question, c'est qu'en est-il de cette fraternité, cette solidarité, cette hospitalité, et puis surtout cet panafricanisme qu'il y avait à cette époque.
Myriam Makeba sur France Culture et au centre aussi de votre dispositif, Zineb Sidira, vous exposez au Jeu de Paume en ce moment. L'intitulé d'ailleurs de votre rétrospective, parce qu'il y a plusieurs périodes de votre vie artistique réunies jusqu'au 20 janvier 2020 au Jeu de Paume, l'intitulé c'est « L'espace d'un instant ».
Pour être franche, c'est un titre qui vient un peu d'une des œuvres qu'il y a d'ailleurs dans l'exposition qui s'appelle For a Brief Moment, The World Was on Fire. Donc on a juste écourté, on n'a pas voulu reprendre exactement le même titre pour l'exposition. Donc on a écourté un peu justement parce qu'on pensait que c'était justement, ça se situait bien par rapport aux œuvres. C'est vrai qu'on travaillait beaucoup sur le passé.
Sur la mémoire.
Et comme vous disiez tout à l'heure, sur la transmission, etc. Donc on pensait que c'était un titre qui recouvrait bien justement toutes ces idées.
La mémoire, la transmission, comment interpréter au présent les traces du passé, comment utiliser les archives d'une manière artistique, comment faire aussi revivre une période qu'on n'a pas connue. Par exemple, le festival panafricain qui a une grande place dans votre dispositif et dans votre histoire telle que vous l'exposez, Zineb Sedira, c'est un événement que vous n'avez pas connu, que vos parents n'ont pas connu. C'est comme si c'était à la recherche d'un paradis perdu. C'était le côté l'Algérie indépendante qui revendique ses racines et sa personnalité africaine. Il y a eu un écho dans...
Alors d'abord, il faudrait que je dise que j'explique que j'ai fait déjà des œuvres auparavant où j'utilise justement, par exemple dans une œuvre, la photo comme arme de combat, l'humour comme arme de combat
bien
dans
sûr.
Laughter in Hell. Et donc pour moi, là, c'est la culture comme arme de combat. Parce que vraiment, au sein du festival panafricain, c'était d'utiliser la culture pour combattre en fait ce colonialisme. Et pour s'émanciper de cette... Donc pour moi, ça tombait dans les thèmes habituels qui m'intéressaient auparavant. Donc voilà, ça a découlé de ça. Effectivement, la grande question qui se pose, c'est qu'en est-il de toutes ces utopies des années 60, mais certainement en Algérie. Alors ce qui était intéressant, c'est que quand j'ai commencé à travailler là-dessus, j'étais aussi beaucoup en Algérie, donc je me suis retrouvée dans les rues le vendredi, à plusieurs reprises, dans les marches du Hirak, Alger. J'étais assez surprise.
Donc le mouvement de protestation né le 22 février, et qui fait que les Algériens sortent tous les vendredis pour protester contre le régime en place.
Exactement. Et du coup, j'ai été assez surprise de voir que beaucoup de gens ressortaient des photos de la guerre de libération et autres dans ces marches. Mmh. Et je me suis posé cette question, justement, cette utopie. Maintenant, les gens, d'ailleurs, dans ces marches-là, souvent disaient, le disent encore, d'ailleurs, ah là là, si on pouvait retourner vers ce que c'était l'Algérie des années 60, c'était vraiment une période, quand on parle à tous ces gens qui ont un certain âge, qui ont vécu cette période, ils disent tous la même chose, que c'était la période la mieux, malgré que c'était quand même...
C'est une dictature depuis.
C'était quand même une dictature qui avait eu un coup d'état en 65,
depuis...
etc. Ouais. Mais la vie, au niveau culturel, je dirais, hein,
ouais.
C'est purement pour la culture qui réclame cette période-là. Il y avait effectivement beaucoup de choses côté cinéma, côté musique, côté théâtre, etc., etc. Donc bon, effectivement, ça faisait partie d'une politique du gouvernement, hein, de créer tout ça pour passer des messages qu'on connaît bien, anticoloniaux, etc. Mais donc voilà, tout ça m'a intéressé en fait, tout ce combat au niveau de la culture, et puis aussi le fait que l'Algérie découvrait son africanité pour la première fois en 69. Ils se sont tout d'un coup rendu compte qu'ils faisaient partie d'un continent africain où il y avait des gens qui leur ressemblaient peut-être pas tellement, mais où il y avait aussi une culture extrêmement riche, et tous ces Africains étaient invités. Ils ont aussi découvert en même temps que l'Algérie était vaste, et que dans le sud de l'Algérie, dans l'est ou dans l'ouest, on n'avait pas spécialement les mêmes cultures ou les mêmes traditions, mais on était quand même algériens. Donc ça, je trouvais ça assez fort quand même. Comme moi, je sais que j'ai découvert mon africanité à Londres. Hein, c'est en faisant mes études postcoloniales que j'ai vraiment découvert mon africanité. Donc je me suis retrouvée j'ai trouvé plein de liens en fait entre ce festival-là et ma propre histoire à moi. Effectivement, mes parents ne l'ont pas vécu puisqu'ils étaient en France à ce moment-là. Et moi non plus d'ailleurs, parce que j'étais à peine bébé, ouais. À ce moment-là.
Et puis il y a d'autres installations dans votre exposition, Zineb Sedira. La mer revient souvent, photos, vidéos, la mer, le voyage, les paquebots blessés pour certains d'entre eux, les épaves, la mer souvent photographiée comme un désert.
Oui, alors la mer, c'est cette idée de la mer est survenue justement quand je suis retournée travailler en Algérie en 2005-2004, où j'ai découvert justement la beauté, redécouvert la beauté du pays, puis Alger notamment avec cette mer si présente, hein, peu accessible mais présente. Et puis l'histoire de ce port à Alger quand même, qui a une histoire au niveau de l'immigration, de l'exodus assez forte aussi. Donc j'ai commencé à faire beaucoup de travail autour de la mer, de cet espace entre la France et l'Algérie. Et puis la mer, c'est ma mère. Ça, c'est une autre chose qu'on a en commun, peut-être avec mon grand ami Moustapha Ben Fodil.
Écrivain donc, et journaliste algérien, très présent d'ailleurs dans vos vidéos, Zineb Sidira, et qu'on a eu d'ailleurs l'extrême privilège de recevoir à ce micro.
Voilà, donc on parle de la mer et de notre mère.
Et puis, il y a dans votre exposition, Zineb Sidira, une nouvelle œuvre, si j'ose dire, c'est votre salon. Vous avez décidé de l'exposer parce que il témoigne de votre culture, de vos recherches, de vos questionnements.
Il y a une œuvre principale en quatre scènes, en quatre parties, et cette œuvre, Ways of Life,
ça veut dire
salon,
en français. Tout est en anglais dans vos intitulés.
Manière de vivre, ouais. Je suppose. Et effectivement, j'ai déplacé mon salon, mon vrai salon de Londres, vers le Jeu de Paume, où on a fait une réplique à échelle 1 de mon living room, de mon salon. Voilà, avec les meubles, avec le papier peint, enfin, avec un papier peint, une photo. Donc pour moi, c'est vraiment une installation photographique pour le coup, parce qu'on a trois photos très larges qui est la reproduction de mes murs. Et par-dessus ces photos-là, j'y ai rajouté des éléments, des photos, des cadres, etc. Alors pourquoi ? Parce que quand je réfléchissais à ce projet, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais entourée des années 60 d'objets africains, d'objets maghrébins, tout ça chiné au fil des années.
Affiches de films égyptiens aussi.
Oui, affiches de films égyptiens. Et donc je me suis dit en fait, et puis la dimension anglaise, hein, quand même, je suis à Londres depuis plus de 30 ans, donc j'ai maintenant j'ai une identité anglaise. Donc je me suis dit que je voulais vraiment ramener cette identité aussi anglaise en France.
Parce comme si votre salon était un peu le reflet de votre personnalité, de votre culture composée, Zineb Sidira.
Complètement. Là, on est vraiment, pour le coup, on est vraiment dans l'autobiographique. Là, on est vraiment dans mon histoire intime et personnelle. Et puis, il y avait l'idée de l'hospitalité qui est dans le Festival panafricain, mais que moi, je voulais recréer, c'est-à-dire un espace où on peut venir s'asseoir, écouter, regarder la télé, écouter un entretien, bouquiner des choses, regarder des objets, etc. يا رايا وين مسافر تروح تعايا وتولي يا رايا وين مسافر تروح تعايا وتولي
Zineb Sidira, vous vous définissez comment aujourd'hui ?
Pourquoi, au niveau identité ?
Oui, au niveau identité, puisque l'identité est au centre de votre travail artistique.
Moi, je pense réellement que je suis française, algérienne et anglaise.
Et anglaise. Voilà. Et que raconte cette dernière exposition ? Parce que le fait de réunir un peu, une partie seulement, hein, de vos travaux artistiques de ces 20 dernières années, le fait de les agencer, qu'est-ce que ça vous renvoie comme image ?
Que j'ai été très productive, peut-être, quand même, mais non, mais là, c'est pour moi, c'est toujours, enfin, pour chaque artiste, je pense que c'est très difficile de devoir sélectionner 6 ou 7 œuvres sur une pratique de 30 œuvres. Hein, c'est toujours impossible comme travail. Heureusement qu'on travaille avec des curateurs, des commissaires d'exposition qui font ça.
Et on travaille aussi avec l'époque. Pourquoi avoir réuni ces objets ? Je rappelle qu'il y a aussi bien de la photo, de la vidéo, des sculptures, des archives, beaucoup d'archives d'ailleurs.
L'archive utilisée comme j'utilise peut redevenir une autre archive. Donc elle peut être réutilisée plus tard par qui sera intéressé à cette archive. Il y a très peu de choses sur le Festival panafricain. Moi, j'ai eu la chance d'avoir accès à pas mal de choses en Algérie, mais je sais que c'est pas donné à tout le monde. Donc j'espère que ça peut éclairer des choses dans cette période-là et aider certaines personnes à peut-être découvrir cette période-là. Mais je voulais aussi dire, et c'est vachement important pour dans cette histoire d'hospitalité, c'est que j'ai aussi invité des artistes à contribuer à l'exposition. Un ami Nabil qui a fait une playlist, Jason Audi.
Nabil Djedouani, ouais.
Là, excuse-moi. Jason Audi qui a montré des photos sur Oscar Niemeyer en Algérie en 69. William Klein, quand même, qui nous a prêté une affiche et des photographies. Et des photographes anonymes, malheureusement, que l'association Lumière à Alger m'a prêté. Donc des photos vintage des années 69 sur le Festival panafricain, mais malheureusement, on ne connaît pas le nom des photographes.
Une manière aussi de fêter le 50e anniversaire déjà du panafricain?
Oui, c'est ça, exactement ça, ça tombait bien.
Yaraya, yaraya,
Zineb Sidira, l'espace d'un instant, c'est à Paris au Jeu de Pommes, jusqu'au 19 janvier 2020. On ne pouvait pas ne pas passer Rachid Taha. C'est une version du travail de son fameux tube, sa fameuse reprise de l'hymne des exilés algériens, celle de, chantée d'abord par Ahmed Al-Harachi Yaraya. Zineb Sidira, ça vous évoque quelque chose, bien sûr?
Bien sûr, hein, quand on est fille d'immigrés, entre guillemets, on ne peut avoir Rachid Taha comme référence. Ça, c'est évident. Mais je l'ai beaucoup croisé. Il aimait bien quand même l'art contemporain. Je le croisais souvent chez Kamel Mennour. Hein,
et pourquoi vous dites fille d'immigrés entre guillemets?
Parce que c'est une appellation que je trouve un peu trop simple. Je suis quand même française avant tout, avant d'être fille d'immigrés. Mais bon, c'est l'appellation qu'on nous donnait, je me souviens bien, dans les années 80, etc., où on était les beurettes, où on était les filles ou les enfants d'immigrés.
Merci d'être passé ce matin, Zineb Sidira.
Merci.
Le Réveil culturel est à retrouver sur franceculture.fr. À demain.
وعلاش قلبك كحزين وعلاش هكذا كي الزواني ما تدومش الدم ولا عطيت علم مكتب لي ما يدومون ايام لا يدوم صغر التاري ما يدومون ايام يا رايح وين مسافر تروح تعايا وتولي